Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Derrière le héros d'une nation tout entière se cache un homme à la vie personnelle peu conventionnelle.
Je crois que c'était Catherine Ney plutôt.
Non Stéphane, on embrasse Catherine. Non, c'est un homme dont on parle. Un pilote, un père de famille meurtri, un mari, un don Juan, mais pas seulement. Stéphane Bern attache sa ceinture et nous raconte Charles Lindbergh.
Nous sommes le 20 mai 1927 à New York. Peu avant 8h ce matin-là, Charles Lindbergh s'apprête à accomplir l'impossible, traverser l'Atlantique et rallier Paris sans escale à bord de son petit avion monoplan, le Spirit of St. Louis. Le défi se joue en solitaire, avec lui simplement quelques sandwichs, 5 litres d'eau et un peu de café. Il n'a pas de radio pour communiquer, pas de parachute non plus, mais un radeau de sauvetage en caoutchouc si l'appareil venait à défaillir au-dessus de la mer. Et il ne peut voir devant lui qu'à l'aide d'un périscope car sa vue est bouchée par les réservoirs d'essence supplémentaires. Suivant rigoureusement les caps prévus, le pilote alterne ses réservoirs. Il trouve la Grande-Bretagne, puis la France, et vole vers Paris en cherchant l'aérodrome du Bourget. Enfin, le 21 mai, à 22h22, les roues du Spirit of St. Louis touchent le sol français. Charles Lindbergh coupe le contact et, selon la légende, descend avec ces mots « Well, I did it ». Eh bien, je l'ai fait. L'avion est immédiatement entouré d'une foule en folie. 150 000 personnes se jettent sur le monoplan et l'on a du mal à arracher l'aviateur à ses admirateurs déchaînés. L'homme qui a vaincu l'Atlantique devient d'autant plus célèbre qu'il a le physique de l'emploi. Beau, blond, une carrure de dieu viking, Charles Lindbergh a aussi ce mental d'acier dont sont faits les héros. Pourtant, derrière la façade, se cachent quelques secrets peu reluisants. Charles Lindbergh est né le 4 février 1902 à Détroit, dans le Michigan. Sa mère, professeure de sciences, est une femme réservée et peu affectueuse. Quant à son père, membre du Congrès américain, il compense ses nombreuses absences par des faveurs exubérantes. Il invite son fils à visiter la Maison Blanche et l'emmène à Fort Myer en Virginie pour assister à son premier vol. Peu attiré par les études, Charles s'inscrit à l'école d'artillerie de Camp Knox, dans le Kentucky, où il suit des cours de pilotage qui lui permettent de devenir pilote de l'US Air Mail. En ce début du XXe siècle, la mode est aux exploits aériens. Louis Blériot a traversé la Manche, Roland Garros la Méditerranée. Aux États-Unis, Raymond Ortega, un riche homme d'affaires, offre une récompense de $25,000 au premier aviateur qui traversera l'Atlantique sans escale entre New York et Paris. Et ce 20 mai 1927, à 25 ans seulement, Charles Lindbergh relève le défi avec succès. En 33 heures et 30 minutes, s'ensuit avec celui que l'on surnomme l'aigle solitaire une tournée triomphale aux États-Unis et en Amérique centrale. À Mexico, Lindbergh fait la rencontre d'Anne Murrow, la fille de l'ambassadeur des États-Unis. Elle a tout pour plaire au pilote qui recherche avant tout une catholique de bonne famille, disposée à mettre au monde de nombreux enfants. On ne fait pas plus romantique.
Ah oui.
Qu'importe, elle a dit oui. Après leur mariage, le couple vit isolé à East Amwell, dans le New Jersey. Pour un peu, la presse qui suit Lindbergh de près depuis son exploit les oublierait. Cela ne va pas durer longtemps. Le soir du 1er mars 1932, leur fils Charles Junior, âgé de 20 mois, est enlevé dans sa chambre. Le ravisseur s'est introduit par la fenêtre au moyen d'une échelle. Des demandes de rançon sont envoyées. 50 000, puis $70,000, et une transaction est arrangée. Pourtant, le corps sans vie du bébé est découvert dans un fossé, non loin de chez ses parents. Après 2 années d'enquête, la police accuse un ancien criminel allemand, un certain Bruno Hauptmann, qui ne cessera de clamer son innocence avant d'être tout de même condamné à la chaise électrique en 1936, après un procès largement médiatisé. Pour fuir cette pression, les Lindbergh quittent les États-Unis pour l'Europe. À la demande du gouvernement américain, ils se rendent à Berlin, où Lindbergh est vite fasciné par Hitler. Si bien que de retour aux États-Unis, Charles se fait le chantre des idées nazies, fustigeant les Juifs et incitant l'Amérique à ne pas intervenir au début de la Seconde Guerre mondiale. L'attaque de Pearl Harbor le fait changer d'avis et il redore son blason en participant à des missions aériennes dans le Pacifique. Au fil des années, les époux Lindbergh s'éloignent l'un de l'autre. Charles est un père inconséquent, capable d'oublier la remise de prix de son fils Scott ou de négliger le mariage de sa fille Land. Il est constamment en voyage, pour ses affaires certes, mais aussi car l'aviateur mène une double vie, que dis-je ? Une quadruple vie, puisqu'il a trois maîtresses, toutes allemandes, auxquelles il fera en tout sept enfants. La première s'appelle Valeska. Elle est l'interprète de Charles Lindbergh lorsqu'il est dépêché en 1957 à Munich par le président Dwight Eisenhower pour évaluer les besoins des ressortissants américains installés en Allemagne. Valeska lui présente deux amies, des sœurs qui plus est. Brigitte est modiste et Marietta étudiante en art. Charles Lindbergh ajoute les deux sœurs à son harem. Le voilà en voyage à Berlin avec Marietta, dans le Tyrol avec Valeska ou à Brindisi avec... qui est une petite ville d'Italie, non, oui. avec Brigitte. Il leur arrive aussi de voyager tous ensemble. Lors d'un séjour à Rome, il loge ses maîtresses dans le même appartement. Pour la petite histoire, c'est à Brigitte qu'il accorde le plus de temps et d'attention, lui offrant une montre griffée ou lui passant de nombreux coups de téléphone. Apprenant la future naissance de leur premier enfant, Dirk, il lui écrit « La nouvelle que tu m'envoies est formidable et elle me fait terriblement plaisir. Je regrette simplement de ne pas être avec toi plutôt que d'écrire cette lettre. » En 1960, lorsqu'il fait la connaissance de ce bébé, Charles Lindbergh, traumatisé par l'enlèvement et la mort de son premier enfant, se livre à un bien étrange rituel. Il badigeonne d'encre les mains et les pieds du bébé et applique ses empreintes sur une feuille de papier en demandant à Brigitte de conserver ce précieux document que lui-même n'avait pas. Le jour de l'identification de Charles Junior en 1932. Charles Lindbergh est promoteur pour la grande compagnie aérienne Pan American, conférencier, et il joue aussi un rôle de premier ordre dans deux ONG environnementales, WWF et l'UICN. Pour jongler, si j'ose dire, entre ses impératifs professionnels et ses quatre familles, il tient son agenda avec soin. Charles Lindbergh a toujours une voiture à sa disposition dans un garage de Waldorf, à mi-chemin entre les aéroports de Francfort et de Stuttgart, une coccinelle bleu ciel avec laquelle l'infatigable voyageur aurait parcouru plus de 200 000 kilomètres. Les maîtresses de Charles Lindbergh savent bien qu'il est marié et qu'il a officiellement 5 enfants, mais son épouse Anne, bien qu'il se soit éloigné, n'est au courant de rien. Charles Lindbergh est discret, signant ses missives d'un C prudent pour n'éveiller aucun soupçon. Ses enfants cachés le connaissent d'ailleurs sous le faux nom de Ken Careux. Ils voient leur père quelques fois par an, tout au plus, à cause de son travail, leur dit-il. Charles Lindbergh aurait prétendu être un écologiste et un auteur, ce qui n'est pas tout à fait faux, puisqu'en 1954, il a reçu le prix Pulitzer pour son livre « The Spirit of St. Louis », racontant sa traversée de l'Atlantique. À ses trois maîtresses, il assure un confort financier en leur achetant à chacune une maison. Lorsque naissent ses deux derniers enfants, David et Christophe, Lindbergh a 65 ans. Son épouse Anne se considère veuve, elle utilise elle-même ce terme, et Charles espace de plus en plus ses voyages en Europe. Il s'installe à Hawaï où il meurt en 1974 d'un cancer sans que sa double vie ne soit révélée. C'est à la mort de Brigitte que trois des enfants cachés de Charles Lindbergh sortent de l'anonymat lors d'une conférence de presse à Munich. Comme preuve, ils ont une pile de lettres d'amour que l'aviateur avait envoyées à leur mère. Des tests ADN confirmeront leur filiation avec le célèbre aviateur. Le mot de la fin, c'est sa fille légitime, Reeve, qui l'écrira dans son autobiographie. « J'ignore pourquoi il s'est comporté de la sorte, mais ma seule certitude, c'est que toute sa vie a été commandée par le secret. »